Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, 4h en temps universel, 5h ici à Paris. Une nouvelle demi-heure d'information, votre journal d'abord, Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une, la Syrie, où Ahmad el-Sharreh a été officiellement désigné président intérimaire. Hier, il est maintenant chargé de former un conseil législatif intérimaire pour la période de transition, période dont on ne connaît pas la durée et les précisions dans un instant. C'est le jour J pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens doit fermer aujourd'hui son bureau à Jérusalem sur ordre d'Israël. Quelles conséquences sur l'aide humanitaire apportée aux Gazaouis, nous entendrons son porte-parole. Au sommaire, aussi les habitants de Goma, en République démocratique du Congo, qui attendent le retour de l'eau et de l'électricité après cette offensive menée par le M23, soutenue par le Rwanda. Hier, Félix Tshisekedi, le président, a promis de riposter. Et puis nous reviendrons sur le rétropédalage de Donald Trump, 2 jours après le gel de certaines aides publiques fédérales. Il suspend finalement sa décision, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant. Dissolution de l'ancien Parlement, gel de la Constitution de 2012, plus d'un mois après la chute de Bachar al-Assad. La transition est désormais officiellement lancée en Syrie. Les nouvelles autorités syriennes ont aussi annoncé hier la nomination officielle d'Ahmad al-Sharreh comme président intérimaire du pays. C'est aussi lui qui représentera la Syrie dans les forums internationaux. Les précisions pour RFI de Paul Khalifet.
Les nouveaux maîtres de Damas ont pratiquement fait table rase du passé ce mercredi. Ils ont dissous l'ancien parlement, l'armée du régime de Bachar el-Assad et ses services de sécurité, le parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant 60 ans et toutes les formations qui se sont alliées à lui au sein du Front National Progressiste. Les groupes armés qui ont combattu le régime, ainsi que les structures civiles et militaires de la révolution syrienne n'ont pas échappé au coup près de la dissolution. Avec le gel de la Constitution, tous les pouvoirs sont désormais concentrés entre les mains d'Ahmad al-Sharreh, nommé président de la transition, qui assumera les fonctions de chef de l'État et représentera la Syrie dans les forums internationaux. Avec ses pouvoirs illimités, le nouveau maître de Damas pourra reconstruire comme il le souhaite la Syrie de demain. Sa première mission sera de former un conseil législatif intérimaire, une sorte de parlement non élu qui aura pour tâche de voter une nouvelle constitution et des lois. Les nouvelles autorités ont promis, je cite, la reconstruction de l'armée syrienne et la formation d'un nouvel appareil sécuritaire qui préservera la sûreté des citoyens. Paul Khalifet, Beyrouth. RFI.
Et dans la soirée, Ahmad al-Sharreh a dressé la liste de ses priorités, combler le vide au pouvoir, préserver la paix civile, construire les institutions de l'État, œuvrer à bâtir une économie tournée vers le développement et redonner à la Syrie son rôle régional et international. Les nouvelles autorités syriennes qui ont aussi réclamé hier le retrait israélien de la zone démilitarisée du Golan lors d'un entretien avec le chef des casques bleus de l'ONU en visite en Syrie. Des troupes israéliennes y sont déployées depuis la chute le 8 décembre de Bachar al-Assad, une violation de l'accord de désengagement de 1974, d'après les Nations Unies. Israël qui va libérer 110 prisonniers palestiniens aujourd'hui, c'est ce qu'affirme une ONG palestinienne. En même temps, 8 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza vont être relâchés, suivis de 3 autres samedi, annonce hier de l'État hébreu, alors que juste avant, des responsables du Hamas l'accusaient de retarder l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. 3000 camions chargés d'aide seraient d'ailleurs entrés dans l'enclave depuis le 26 janvier, selon le ministère de la Défense israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens. Chiffres qui n'ont pas été confirmés par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, officiellement interdite à partir d'aujourd'hui à Jérusalem sur ordre d'Israël. Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA à Jérusalem.
Déjà, c'est inadmissible que ces lois ont été passées, parce que adopter ces lois pour interdire le travail d'une agence des Nations Unies, c'est une décision sans précédent dans l'histoire du droit international, l'histoire des Nations Unies. Ce qui peut arriver là, c'est qu'on sait que nos opérations en Jérusalem-Est sont plus ou moins stoppées. C'est le risque. Mais on ne sait pas si nos cliniques et nos écoles vont pouvoir continuer à fonctionner. Ensuite, pour la Cisjordanie et Gaza, c'est la deuxième loi qui pose problème. Cette loi interdit tout contact entre les représentants d'Israël et les représentants de l'UNRWA. Mais qu'est-ce qui contacte? On ne sait pas. Est-ce que traverser un poste de contrôle, par exemple, est-ce que ça, c'est un contact? On ne sait pas. Est-ce que nos équipes peuvent tourner au sein de la Cisjordanie? On ne sait pas. Est-ce que on peut faire entrer du matériel ou du personnel à Gaza pour l'opération humanitaire en cours? On ne sait pas.
Un témoignage recueilli par Muriel Paradon. Notait par ailleurs que les autorités palestiniennes ont annoncé hier soir la mort de 10 personnes tuées dans le village de Tamoun en Cisjordanie occupé par l'armée israélienne qui confirme avoir frappé une cellule terroriste armée. En République démocratique du Congo, c'est juste avant minuit que Félix Tshisekedi, le président, s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l'est de la RDC. Il a promis une riposte militaire contre le M23 soutenu par le Rwanda, dénoncé l'inaction de la communauté internationale et mise en garde contre le risque d'escalade régionale. Dans la journée à Goma, les habitants, pour beaucoup sans eau et sans électricité, ont accepté de témoigner au micro de RFI.
Je suis allé voir ma mère à l'hôpital Heal Africa. Elle a été blessée par balle lors des combats d'avant-hier. Je vis à Goma et je ne veux pas revivre les combats que nous avons connus lundi.
Je sors pour la première fois aujourd'hui. Nous souffrons beaucoup, nous avons faim, nous manquons de nourriture. Pour avoir de l'eau, il faut puiser dans le lac sans pouvoir traiter l'eau.
La situation n'était pas bonne. Je viens de sortir et je vois que la circulation reprend petit à petit. Je n'ai pas peur. Je demande aux autorités de nous aider pour avoir Internet, de l'électricité et de l'eau.
Je continue d'avoir peur car les cadavres que nous voyons dans la ville font peur.
23h06 à Washington, aux États-Unis. Un avion de ligne s'est écrasé cette nuit dans le fleuve Potomac à Washington après une collision avec un hélicoptère militaire. Selon le sénateur du Kansas, une soixantaine de passagers se trouvaient à bord de l'avion. Celui du Texas a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il y avait des victimes sans en préciser le nombre. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Que Dieu les bénisse, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Le président américain qui poursuit ses annonces choc sur l'immigration. Il veut faire de la base américaine de Guantanamo un centre géant de rétention pour 30 000 migrants sans papier. Aujourd'hui, seuls 15 prisonniers y sont enfermés. Autre déclaration choc hier de l'administration Trump, l'annulation de la prolongation du statut de protection temporaire pour 600 000 Vénézuéliens présents sur le sol américain. Une vague d'annonces, mais aussi une marche arrière, puisqu'il a mis en pause sa décision de geler certaines aides publiques fédérales. Les précisions à Washington de Guillaume Nodin.
C'est un principe chez Donald Trump, ne jamais reconnaître un revers et toujours clamer victoire. Alors il revendique d'avoir le début de présidence le plus actif de toute l'histoire, avec plus de 300 décisions signées en un peu plus d'une semaine. En revanche, pas un mot sur la décision qui fait suite à plusieurs heures de confusion, le retrait par son bureau de gestion et du budget, du texte qui mettait en pause les versements des prêts et autres bourses par le gouvernement fédéral, le temps d'examiner si tout cela était en conformité avec ses priorités, lutter contre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, contre ce qu'il appelle l'idéologie woke ou contre les politiques favorisant les énergies propres, entre autres. Bien que l'administration ait assuré que les Américains recevant des aides directes continueraient à les percevoir, le fonctionnement de l'assurance santé pour les plus démunis a été perturbé et certains organismes par lesquels passaient certaines aides n'étaient plus en mesure de les fournir. Gênant quand on se pose en défenseur du peuple et qu'on a promis de ne pas y toucher. De plus, l'application du texte a été bloquée par un juge fédéral à la suite de plusieurs actions en justice, mais la Maison-Blanche insiste pour dire que les principes politiques restent valables, elle va devoir trouver un autre moyen, efficace et légal, pour les appliquer. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
L'aéroport londonien de Heathrow va s'agrandir. Le gouvernement britannique soutient la construction d'une troisième piste d'atterrissage pour l'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Emeline Vin, l'expansion de cet aéroport suscite un débat animé au Royaume-Uni.
D'un côté, il y a l'argument économique. C'est d'ailleurs la ministre des Finances qui a donné le feu vert. Une troisième piste d'atterrissage pour le premier aéroport du pays stimulera la croissance, les investissements étrangers et rendra le Royaume-Uni encore mieux relié à l'international, selon Rachel Reeves, qui promet 100 000 nouveaux emplois et des opportunités commerciales majeures, en particulier pour le saumon écossais ou le whisky, une fois les travaux achevés, pas avant 2030. Le Parti conservateur dans l'opposition, la Chambre de commerce et la Confédération des petites entreprises ont également apporté leur soutien au projet. De l'autre côté, il y a l'argument écologique. Les associations de défense de l'environnement et le maire de Londres, l'influent Sadiq Khan, s'inquiètent de l'impact d'une troisième piste d'atterrissage sur la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, pas convaincus par l'investissement de 70 millions d'euros dans la recherche de carburant durable pour le transport aérien. Le gouvernement devrait aussi trancher très prochainement sur d'autres projets d'expansion dans les aéroports londoniens de Luton et Gatwick. Emeline Van Londres. RFI.
Retour en France avec la suite du procès du financement présumé libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Hier, un homme était appelé à la barre, Alain Juillet, responsable de l'intelligence économique pour Matignon de 2003 à 2009. Compte rendu d'audience avec Laura Martel.
En 2006, Alain Juillet s'inquiète de la bataille que se livrent deux entreprises françaises pour décrocher des contrats liés à l'aviation libyenne. L'une était représentée par Takieddine et je découvre qu'il se promène en Libye avec une lettre soi-disant signée par Nicolas Sarkozy, dans laquelle il était dit que si les affaires étaient réglées, Senoussi serait gracié, raconte-t-il. Pour lui, c'est une évidence, le ministre ne peut avoir signé une telle lettre, il convoque donc Ziad Takieddine. Je lui ai dit que ça pouvait engager dangereusement la France, car si Senoussi y croyait, puis se sentait floué, il pouvait y avoir des réactions, y compris des attentats. J'ai dit, arrêtez avec cette lettre ou vous aurez de gros malheurs. Quand je dis ça en général, on m'écoute, il ne l'a plus utilisée. Pour Alain Juillet, cette lettre, dont l'intermédiaire s'est vanté tout en refusant de lui montrer, était sans conteste un faux, d'autant plus qu'à l'époque, tout le monde savait qu'il fallait se méfier de Takieddine. D'ailleurs, le témoin estime possible que l'homme d'affaires ait piégé Claude Guéant et Brice Hortefeux en leur faisant rencontrer Abdallah Senoussi. Par contre, si c'était un piège, il lui paraît invraisemblable qu'aucun n'ait alerté sa hiérarchie et surtout que Claude Guéant ait continué à voir Takieddine. Claude Guéant était pour moi une référence, je me suis demandé après comment il avait pu être impliqué dans des choses pareilles, si ça n'avait pas été le rôle des intermédiaires de l'entraîner, commente Alain Juillet avant de conclure. Longtemps, j'ai eu du mal à admettre qu'il ait pu faire un certain nombre de choses et j'attends pour cela que la justice se prononce.
Laura Martel. On termine avec du foot et le clap de fin pour la première phase de la Ligue des Champions malgré sa défaite 3-0 contre le Real Madrid. Brest s'est qualifié pour les barrages. Lille obtient son ticket pour les huitièmes de finale grâce à une large victoire face à Feyenoord 6-1. Les Parisiens, mal partis au début de la compétition, accèdent eux aussi au barrage. Victoire 4-1 à Stuttgart. Cédric De Oliveira.
Pour une fois, le PSG n'aura pas eu le temps de gamberger. Une semaine après leur récital face à Manchester City, les Parisiens ont surclassé Stuttgart. Une soirée assez tranquille pour le gardien de but, Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers.
L'équipe a fait un très bon match, beaucoup de possessions, beaucoup de pression. Et je pense qu'on a mérité de gagner 4-1.
Après 5 minutes de jeu, Paris avait déjà marqué par Bradley Barcola avant un festival d'Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé. Le numéro 10 parisien qui a enchanté son président Nasser Al-Khelaïfi.
Très content pour Ousmane Dembélé pour marquer le premier hat-trick avec nous. C'est magnifique de la Ligue Champions, c'est très important, ça fait très très bien.
Dembélé impressionnant à l'image de toute l'équipe parisienne qui, malgré la réduction du score allemand, est retombée sur ses pieds. Au bord de l'élimination il y a quelques jours, Désiré Doué et ses partenaires terminent 15e et joueront les barrages. Ce sera forcément face à un club français.
Oui, c'est ce que j'ai entendu, apparemment ce sera Brest ou Monaco. Mais quel que soit l'adversaire, voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On est déterminé à aller le plus loin possible et on va le montrer sur les prochains matchs.
Ambitieux, les Parisiens ne se fixent apparemment aucune limite. Ils vont pouvoir savourer leur qualification en attendant le tirage au sort qui désignera leurs futurs adversaires. Cédric De Oliveira, Stuttgart, RFI.
Et le tirage au sort des barrages, ce sera vendredi à Nyon, en Suisse. Match aller le 11 ou le 12 février. Retour prévu une semaine plus tard. Il est 4h13 à Londres et en temps universel.
Alban Le Prince.
Merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, nous irons au Royaume-Uni puisque cela fait 5 ans aujourd'hui que le pays est sorti de l'Union Européenne. Quelles conséquences peut-on en tirer? Qui sont les gagnants, les perdants? C'est votre reportage international dans un instant. Nous nous rendrons ensuite en Italie où Giorgia Meloni, la première ministre, est visée par une enquête. Elle est accusée d'avoir facilité la libération d'Osama Al-Masri Najim, le chef de la police judiciaire de Tripoli, pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'invité culture du jour joue du saxophone. Le franco-éthiopien Paul Fatih Lacombe, membre du quatuor Ellipsos, qui sort son 8e album, Symphonic Stories, dans lequel il revisite de grands classiques comme Carmen ou encore Casse-Noisette. Dans le conseil santé, on parlera de la maladie des rois, la goutte, inflammation chronique des articulations avec le professeur Frédéric Lioté et Caroline Paré. Et puis comme chaque matin, on terminera en musique avec le choix de la programmation de RFI aujourd'hui, c'est Océane avec Cadillac. un anniversaire aujourd'hui, on le disait, celui du Brexit. Cela fait 5 ans, jour pour jour, que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Les Britanniques avaient voté pour en 2016, dont une grande partie d'agriculteurs. Alors, 5 ans après, quel bilan tirer de cette sortie? Pour beaucoup, la situation s'est dégradée, même si évidemment certains s'en sortent mieux que d'autres. Illustration sur un marché aux bestiaux avec Marie Billon, correspondante RFI.
Cela fait 5 ans que la cloche de Big Ben du Parlement de Westminster a retenti. À 23h, elle annonçait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette cloche-là, c'est celle qui annonce par contre le début des enchères aux moutons du marché de Melton Mowbray. Richard Morris était là ce matin, même s'il n'avait pas de moutons à vendre cette fois-ci. Cet éleveur aime l'ambiance des marchés.
On nous avait dit qu'avec le Brexit, les prix allaient chuter et que l'agneau britannique n'aurait plus de demande à cause des droits de douane. Mais c'est tout le contraire. La demande est là et aucune taxe n'a été imposée sur l'agneau britannique. Pour l'instant en tout cas. La demande la plus forte vient du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, d'Israël et de Turquie, hors Union européenne. Mais également, plus près de nous, d'Espagne et d'Italie, et de France. Et puisque ces clients avaient une relation commerciale avec nous avant le Brexit, ils continueront cette relation après le Brexit.
L'avis de Richard n'est pas partagé par tous, même pas parmi ses amis. Andrew Wheeler cultive des céréales à quelques kilomètres de là. La saison est basse, pour lui toute sa récolte est dans son entrepôt, il a le temps de ruminer. Lui aussi, il avait voté pour la sortie de l'Union européenne en 2016.
J'ai voté en faveur du Brexit, mais c'est probablement mon cœur qui l'a emporté sur ma tête. L'une des raisons pour lesquelles je voterai différemment aujourd'hui, c'est que je vois que notre gouvernement ne s'intéresse pas à l'agriculture. Lorsque nous étions membres de l'Union européenne, il ne fait aucun doute que la pression exercée par les agriculteurs, surtout les Français, avait de l'impact à Bruxelles. L'UE avait peur, elle a toujours peur, des agriculteurs. Et ce n'est pas le cas du gouvernement britannique.
Le principal syndicat de fermiers britanniques, le NFU, tient une permanence au marché de Melton Mowbray. Ici et ailleurs, le représentant local, James Haddon, reçoit beaucoup de plaintes, notamment de producteurs de fruits et légumes. Ces derniers ne peuvent plus compter sur la main-d'œuvre qui venait d'Europe, surtout d'Europe de l'Est, au moment des récoltes.
Vous travaillez toute l'année pour avoir une récolte et vous n'êtes pas en mesure de la faire. C'est pourquoi la NFU souhaiterait un plan stratégique quinquennal pour les travailleurs saisonniers, pour qu'ils puissent venir en nombre raisonnable, donc sans plafond arbitraire, afin que tous les aliments cultivés puissent être récoltés avec succès.
Le gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet dernier veut revoir et améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais il reste catégorique. Un retour à la liberté de mouvement est hors de question. Marie Billon, Londres, RFI.
L'appel correspondant du jour nous conduit en Italie où Giorgia Meloni, la première ministre, est visée par une enquête dans l'affaire Osama al-Masri Najim. Le chef de la police judiciaire de Tripoli, accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, visé par un mandat d'arrêt. Il a été interpellé le 19 janvier à Turin, relâché 2 jours plus tard par la Cour d'appel de Rome, puis rapatrié en Libye par un avion des services secrets. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour.
Correspondante de RFI en Italie, pourquoi le parquet de Rome a-t-il ouvert cette enquête contre Giorgia Meloni ?
Pour reprendre l'expression utilisée par le procureur en chef de Rome, Francesco Lovoi, c'est un acte obligatoire à la suite d'un dépôt de plainte. En l'occurrence, il s'agit d'une plainte pour présumée complicité en faveur de la remise en liberté d'Osama al-Masri Najim et présumé détournement de fonds à travers l'utilisation d'un avion d'État pour le rapatrier à Tripoli. Elle a été déposée en tant que citoyen par un avocat, Luigi Ligotti, qui a pointé du doigt la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, le ministre de la Justice, Carlo Nordio, et celui de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, ainsi que le secrétaire d'État délégué aux services secrets, Alfredo Mantovano.
Et maintenant, c'est quoi la suite ?
L'ouverture de l'enquête permettant aux personnes visées de désigner un avocat, c'est chose faite depuis hier. Giorgia Meloni et les 3 membres de son gouvernement ont choisi la même avocate, la sénatrice Giulia Bongiorno, figure emblématique du barreau italien. Par ailleurs, l'enquête est déjà entre les mains des juges du tribunal des ministres qui disposent de 90 jours pour décider de classer le dossier ou de le renvoyer au procureur Francesco Lovoi qui pourra le transmettre transmettre aux commissions parlementaires compétentes pour demander l'autorisation d'engager un procès, ce qui, dans ce cas, nécessitera un vote des députés et sénateurs.
Et alors justement, il va peut-être y avoir un procès un jour. Que risqueraient les accusés, Anne ?
Dans un cas comme celui d'Osama Al-Masri Najim, pour le délit de complicité, la peine maximum est de 4 ans de prison et pour le délit de détournement de fonds publics, elle va de 3 ans à 10 ans et 6 mois. Mais on est encore loin d'un éventuel procès.
Et les ministres de l'Intérieur et de la Justice devaient prendre la parole hier devant le Parlement. Ils ont finalement renoncé. Est-ce qu'ils pourraient être contraints de témoigner devant les députés et les sénateurs ?
Pour le moment, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, les travaux au Sénat et à la Chambre des députés seront suspendus jusqu'au 3 février à l'initiative de l'opposition révoltée et qui voudrait surtout les éclaircissements politiques de la chef du gouvernement au Parlement. Jusqu'à présent, Giorgia Meloni s'est contentée de soutenir qu'Osama Al-Masri Najim a été expulsé d'Italie car considéré comme un individu dangereux pour la sécurité nationale.
Merci Anne Lenir, correspondante de RFI à Rome. On s'intéresse aujourd'hui au premier quatuor de saxophone récompensé aux victoires de la musique classique en 2020. Après 20 ans de carrière, Ellipsos sort son 8e album Symphonic Stories, un disque de reprise de 4 œuvres emblématiques, Carmen, Casse-Noisette, West Side Stories et Rhapsody in Blue, dans lequel ils invitent, une fois n'est pas coutume, 3 grands pianistes à les rejoindre. Rencontre sur RFI ce matin avec le franco-éthiopien Paul Fatih Lacombe au saxophone soprano. Il est au micro de Carmen Lunsman.
Paul Fatih Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plus de 20 ans que vous sillonnez le monde avec votre quatuor, non pas à cordes, mais à vent. 4 saxophones, plutôt une constellation rare, dans la galaxie musicale. Pourquoi Ellipsos ?
Alors, Ellipsos, c'est une aventure d'amitié, de fraternité. On s'est retrouvés, en fait, à 18 ans, on avait envie de former un quatuor de saxophone, peut-être le plus grand du monde, on avait ce rêve-là. On était hyper motivés, mais insouciants. Et en fait, l'histoire a perduré avec la même flamme, la même énergie, le même appétit de manger le monde.
Et vous incarnez un peu le monde, donc vous êtes un Français passionné des arts martiaux, un autre qui touche à tout, du violoncelle au trombone en passant par la batterie, un Colombien d'origine qui est aussi arrangeur d'une centaine de pièces, et vous, Paul Fatih Lacombe, d'origine éthiopienne. Comment est née votre passion pour le saxophone, à quel âge ?
Alors, la musique est arrivée à l'âge de 11 ans dans ma vie, comme un boomerang. J'avais un appétit de faire quelque chose d'artistique, le théâtre, la danse. J'ai poussé la porte de l'école de musique, de la classe de saxophone de Guy Banchereau. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé vraiment en amour, parce que c'est un instrument qui vous donne tellement. Vous êtes en permanence surpris de la manière dont il vous emmène. Moi, je dis que c'est un passeport pour le monde, passeport pour la liberté.
Et avec ce passeport, vous avez voyagé à travers une vingtaine de pays. Est-ce qu'il y a une destination, un public qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, aux États-Unis, par exemple, on se croirait dans des stades de foot, il y a une ambiance de fou, les gens expriment leurs émotions. Dans les pays en Europe de l'Est, on est un peu plus sur l'écoute. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette diversité. On a tous des différences. Ce qui compte, c'est les vivre et créer ensemble une émulation collective.
Vous avez donné plus de 1000 concerts, rien qu'en France, de la Tour Eiffel au château de Versailles, en passant par la folle journée de Nantes. Vous présentez votre 8e album, Symphonic Stories. Que racontent ces histoires symphoniques, Paul Fatih Lacombe ?
Plein d'histoires différentes, à la fois de Carmen, en passant par le jazz, en allant aux États-Unis à Broadway, avec un dénominateur commun, le piano. Donc on est allé rencontrer des pianistes de la jeune génération. À Saint-Pétersbourg, on commence par le froid sibérien. Enfin bref, c'est un grand voyage du froid au chaud. Et on finit avec Bernstein, où ça pète, où c'est vraiment la fanfare, la grande parade en fait dans New York. Le saxophone est un instrument caméléon, un carrefour des musiques, parfait pour ce type d'histoire.
Vous êtes aussi attaché à la transmission de votre art auprès des jeunes, et en particulier à destination des plus défavorisés aux côtés d'UNICEF. Avez-vous vécu des situations où vous avez pu vous dire « Ah oui, la musique peut sauver ».
Clairement oui. Notre voyage en Colombie, il y a 2 ans, on est allé jouer à l'orphelinat aux enfants qui avaient tellement d'étoiles dans les yeux. C'était incroyable et bouleversant de voir à quel point la musique n'a pas de frontières. La musique parle à tous, d'où qu'on vienne. Dès qu'on a une petite respiration sur Terre, on est connecté avec ça. Et puis un autre exemple, en Éthiopie, quand je suis parti en 2005, je suis allé à Diledawa, je suis allé à Harare, j'entendais du saxophone classique à Addis Abeba. Alors là, dans le bar, ça m'a épaté, je me suis dit, mais tout est possible, quoi, tout est possible.
Alors, Symphonic Stories, c'est également l'un des albums officiels de la Folle Journée de Nantes. Qu'est-ce que cette manifestation fait résonner en vous, Paul Fatigue-Lacombe ?
On est tous dans un grand bateau où on embarque pendant 4 jours. On est du matin au soir plongé dans la musique. Dans l'hiver, on a tous envie de réconfort, on a envie de chocolat, on a envie de chaleur. Et la Folle Journée, c'est ça, en émotion, en musique. Et cette année, avec les villes phares, il va y avoir une diversité des programmes. On va voyager. C'est une aventure incroyable.
Et si vous aussi, Ellipsos, vous a donné envie d'en découvrir plus, Symphonic Stories est à découvrir à la Folle Journée de Nantes jusqu'à dimanche.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et avec Caroline Paré, ce matin, on parle de la goutte, synonyme d'une alimentation trop riche, d'une consommation d'alcool importante. On l'appelait avant la maladie des rois. C'est une maladie chronique, inflammation des articulations due à des dépôts de cristaux d'acide urique. Alors, comment reconnaître une crise de goutte? Comment la soigner? Et surtout, comment changer ses habitudes? Élément de réponse avec le professeur Frédéric Lioté. Professeur Frédéric Lioté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Un changement d'habitude alimentaire suffit-il à réduire ou éliminer des crises de goutte?
Oui et non. L'alimentation est un élément à prendre en compte dans la goutte, mais ça ne rend compte que d'une infime partie des causes de la maladie. Alors, bien sûr, il y a certains aliments qu'il faut éviter, et certaines boissons. Les boissons, c'est simple, on met le frein sur l'ABS. ABS, vous l'avez, anti-blocking system. A pour alcool dur, whisky, cognac, vodka, rhum. B pour bière, avec ou sans alcool. S pour soda sucré, notamment riche en fructose qui vont se transformer immédiatement en acide urique.
Alors vous disiez oui et non. Le non, c'est quoi? C'est qu'il faut consulter, prendre des médicaments?
C'est que ça ne suffit pas. On dit qu'un régime bien suivi, c'est permettre de faire baisser l'acide urique de 10 mg par litre. Et donc, ce n'est pas suffisant. Donc, le traitement de la goutte, qui est une maladie chronique, c'est de prendre un traitement qui fait baisser l'acide urique de façon permanente. Tant qu'on le prend, l'acide urique est basse, aucun cristaux ne se reformera, ils sont fondus. En revanche, si on arrête, l'acide urique remonte et les cristaux se reforment. Et c'est la cause des crises de goutte. Mais la goutte elle-même, ce sont les dépôts de cristaux d'urate dans l'organisme, autour des articulations ou à distance.
Merci professeur Lioté, vous êtes également professeur émérite à l'Université Paris-Cité, aujourd'hui dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. On va parler avec nos invités de la bilharziose et de la leishmaniose ou d'autres maladies parasitaires classées parmi ces MTN qui touchent les populations les plus vulnérables. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Et comme d'habitude, tout est bien noté. Caroline, allez, comme chaque matin, on termine en musique avec le choix de la programmation musicale de RFI. Ce matin, c'est Océane, la révélation du R&B francophone avec son dernier single Cadillac. Bon réveil sur RFI.
Mais tu rames dans ma boisson. Un apple juice pour les garçons. J'suis sa coca, il aime ça. I push away, you come closer. Mama say mama cosa. J'suis sa piña colada. Sa boisson préférée, son bébé, oulala. Oulala. J'suis sa piña colada. Sa boisson préférée, son bébé, oulala.
C'était Océane avec Cadillac sur RFI. Restez avec nous dans une minute pile, le retour de l'information.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Écrivain et peintre, Mai Binbin est un enfant du Maroc. À l'occasion du festival de littérature africaine qu'il a créé sur place et de son nouveau roman qui paraît sous le titre « Et le vent nous emportera », un hommage à sa mère, Mai Binbin me recevra chez lui à Marrakech pour un grand entretien.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI. L'épopée des musiques noires.
À 50 ans, la chanteuse américaine Madeleine Peru, qui n'a jamais hésité à exprimer ses convictions, affiche la volonté farouche de célébrer la beauté que nous avons tous en nous. Elle nous présente son dernier album, Let's Walk, dans lequel elle évoque les enjeux sociaux de notre temps, mais souligne surtout notre capacité à résister et à avancer dans un quotidien semé d'embûches.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.